Bienvenue sur BetaFinch, votre guide d'analyse des résultats financiers générés par l'IA. Je suis Alex, et aujourd'hui, nous analysons les résultats impressionnants du deuxième trimestre 2026 de Bank of America. Ce podcast est un contenu généré par intelligence artificielle à des fins éducatives et de divertissement uniquement. Rien de ce que nous discutons ne doit être considéré comme un conseil en investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier qualifié avant de prendre des décisions d'investissement. Avec nous, Jordan, notre co-animatrice analytique. Jordan, qu'en est-il de ces résultats? BofA a vraiment frappé fort ce trimestre.
Alex, c'est remarquable. Avant même de regarder les chiffres, je dois dire que la cohérence est ce qui ressort vraiment. Bank of America a continué sa dynamique avec une croissance organique dans chaque segment commercial. Mais commençons par les grands chiffres, d'accord?
Oui, parlons des résultats principaux. Le revenu total était de 31,6 milliards de dollars, en hausse de 15% d'une année sur l'autre. C'est une croissance solide, mais c'est le revenu net qui a vraiment impressionné.
Exactement. Le revenu net a atteint 9,1 milliards de dollars, en hausse de 27% d'une année sur l'autre. C'est plus du double du taux de croissance des revenus. Cela nous dit que l'effet de levier opérationnel fonctionne vraiment en faveur de Bank of America. Et puis vous regardez le bénéfice par action, 1,21 dollars, en hausse de 34%. C'est impressionnant.
Et le retour sur le capital action ordinaire tangible? 17%. C'est un domaine où les banques ont vraiment cherché à s'améliorer depuis la crise financière.
C'est vrai. Et remarquez, les chefs d'entreprise disaient qu'ils ne pensaient pas atteindre 17% aussi rapidement. Mais voici la chose importante, cela n'est pas une anomalie. Cela fait partie d'une tendance. Bank of America a enregistré 660 points de base d'effet de levier opérationnel ce trimestre, et le ratio d'efficacité est tombé à 59%. C'est la preuve que la banque gère mieux ses coûts tout en générant plus de revenus.
Parlons de cette mise à jour des prévisions pour le revenu net d'intérêt. C'est là que la plupart des questions des analystes se sont concentrées.
Oui, et pour une bonne raison. Au début de l'année, la direction avait prévu une croissance du RNI de 5 à 7%. En avril, cela a été relevé à 6 à 8%. Maintenant, ils disent qu'ils s'attendent à atteindre le haut de cette fourchette de 6 à 8%. C'est une hausse supplémentaire et cela montre leur confiance dans la dynamique du cœur de métier.
Qu'est-ce qui conduit cela, Jordan?
Plusieurs choses convergent. Premièrement, il y a 12 trimestres consécutifs de croissance des dépôts moyennes. Les dépôts ont augmenté de 49 milliards de dollars d'une année sur l'autre, et c'est important, la croissance des dépôts non rémunérés était de 19 milliards de dollars. C'est le type de dépôt le moins cher pour une banque. Deuxièmement, la croissance des prêts est large. Les prêts et baux ont augmenté de 88 milliards de dollars, soit 8% d'une année sur l'autre. C'est maintenant 9 trimestres consécutifs de croissance.
Cela semble très stable pour une banque. C'est le genre de choses que les investisseurs adorent.
Absolument. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'est la composition de cette croissance. Les prêts commerciaux augmentent de 11%. Les prêts à la consommation augmentent de 3%. La croissance des cartes de crédit a atteint 4% cette année, et la direction vise 5%. Donc, c'est progressif. Aucun segment n'explose, mais tous progressent.
Passons maintenant aux segments commerciaux. Celui qui semble avoir vraiment brillé, c'est Global Market.
Oh, Global Market était phénoménal ce trimestre. Le revenu du courtage et du négoce a augmenté de 33% pour atteindre 7,2 milliards de dollars, excluant les ajustements de valeur des dettes. Et écoutez ceci, les actions ont généré un revenu record de 3,6 milliards de dollars, en hausse de 70%. Les titres à revenu fixe ont produit 3,5 milliards de dollars, leur meilleur trimestre en plus d'une décennie.
Comment cela s'est-il produit? Était-ce juste du marché, ou Bank of America y a-t-elle bien joué?
C'est une excellente question. La direction a souligné qu'ils ont maintenant enregistré 17 trimestres consécutifs de croissance du revenu de courtage et de négoce d'une année sur l'autre. C'est de la cohérence, pas seulement une chance. Ils gagnaient des parts de marché. Mais bien sûr, les conditions du marché aident aussi. Les activités de financement, les fusions-acquisitions, Tout cela s'est animé.
Et les frais de banque d'investissement?
Oui, cela a augmenté de 50% pour atteindre 2,1 milliards de dollars. C'est impressionnant. La direction a noté qu'il y a eu beaucoup d'activités d'M&A, de levée de capitaux et de restructuration. Les clients empruntent pour financer les investissements en infrastructure, en grande partie en raison de la ruée vers l'IA que nous voyons.
Parlons justement de l'IA. Bank of America semble vraiment investir là-dedans en interne. Quelle est la situation?
C'est une histoire sous-estimée, à mon avis. La banque a présenté une diapositive entière là-dessus. Ils ont 300 cas d'utilisation d'IA approuvés. 114 cas d'utilisation de l'IA générative sont en direct. 34 sont entièrement mis en œuvre. Et voici le nombre qui m'a frappé, 400 000 invites IA par jour de la part de 200 000 employés. Cela représente en moyenne 2 invites par employé par jour.
Qu'en est-il des cas d'utilisation réels? Où voyons-nous cela faire une différence?
Ils utilisent l'IA pour aider les responsables des relations clientèle à se préparer pour les réunions. Ils l'utilisent dans les équipes de développement pour un codage plus efficace. Les banquiers utilisent des outils d'IA pour automatiser la recherche et la préparation des matériaux de présentation. Et bien sûr, il y a des améliorations de productivité générale dans les domaines de l'exploitation et du risque. Le directeur général Brian Monian a déclaré que c'était créer des opportunités importantes pour l'avenir.
Et le segment banking global et GWIM?
Global Banking a enregistré une excellente croissance, avec un revenu en hausse de 10% à 6,2 milliards de dollars et un revenu net en hausse de 20%. Mais GWIM Global Wealth and Investment Management était peut-être encore plus impressionnant. Le revenu net a augmenté de 42% pour atteindre 1,4 milliard de dollars. Les revenus ont atteint un record de 6,9 milliards de dollars, en hausse de 16%. Et les marges avant impôts se sont élargies à plus de 27%.
C'est une marge intéressante pour un gestionnaire de patrimoine.
C'est exact. Et c'est parce que les volumes sont énormes. Les encours ont atteint un record de 4,9 billions de dollars. Les actifs sous gestion ont augmenté de 17% pour atteindre 2,3 billions de dollars. Les flux d'AUM ce trimestre étaient d'environ 14 milliards de dollars. C'est un modèle très évolutif.
Qu'en est-il du consumer banking?
Consumer banking a généré un revenu net en hausse de 10% à 3,3 milliards de dollars et un revenu en hausse de 5% à 11,3 milliards de dollars. Maintenant, c'est le segment le plus stable. Pas de croissance explosive. Mais regardez ce qui se passe. Les dépôts moyens ont atteint 957 milliards de dollars. Les soldes des comptes chèques ont atteint un record. Ils ont ajouté 162 000 nouveaux comptes chèques nets. Les dépenses de cartes de crédit ont augmenté de 9% d'une année sur l'autre.
Il semble donc que les consommateurs américains dépensent comme prévu?
Oui, et la direction a souligné cela. La croissance des dépenses a été de 5% pour le premier semestre, mais elle s'accélère. Elle est maintenant à 6% ou plus d'une année sur l'autre. Les consommateurs continuent à donner. L'économie semble solide, du moins du point de vue des dépenses.
Parlons d'une mise à jour importante. La direction a relevé les prévisions d'effet de levier opérationnel pour l'année complète.
Oui, c'est important. En janvier, ils avaient prévu un effet de levier opérationnel de plus de 200 points de base. Après le premier semestre, ils ont maintenant relevé cela à 3 cents à 400 points de base. Pourquoi? Eh bien, le premier semestre a enregistré 450 points de base d'effet de levier. C'est au-delà du range. Maintenant, la direction reconnaît que les comparaisons seront plus difficiles au second semestre. Mais ils pensent quand même être en mesure de livrer 3 cents à 4 cents pour l'année complète.
Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs, Jordan?
Cela signifie plusieurs choses. Premièrement, le modèle commercial de Bank of America fonctionne réellement. Les revenus augmentent plus vite que les dépenses, ce qui signifie une rentabilité accrue. Deuxièmement, l'IA et l'automatisation aident à améliorer l'efficacité opérationnelle. Troisièmement, la banque a un positionnement en amont solide avec des activités d'investissement banking et de marché qui fonctionnent bien. Quatrièmement, l'économie semble constructive. Vous avez un chômage à 4,2%, un fort dynamisme des consommateurs, et les demandes de capital pour l'investissement en infrastructure et en IA sont élevées.
Qu'en est-il des risques de crédit? Voyez-vous des préoccupations concernant la qualité du crédit?
C'est intéressant. La direction a affirmé que la qualité du crédit restait stable et cohérente avec leur discipline de souscription de longue date. Les provisions pour perte de crédit étaient de 1,4 milliard de dollars, sans changement par rapport au premier trimestre. Les défauts nets de paiement étaient également de 1,4 milliard de dollars. Donc, il n'y a pas de détérioration. Les créances commerciales douteuses se sont améliorées. Les expositions commerciales critiques ont diminué. Je pense que la direction dirait que tout va bien, mais elle est vigilante.
Vigilante pourquoi?
Eh bien, il y a des risques reconnus. L'immobilier commercial, bien sûr, c'est une préoccupation. Il y a aussi cette question plus large de savoir ce qui se passe avec les investissements en IA. Si cet investissement en infrastructure ralentit, cela pourrait affecter les demandes de prêts. Mais pour l'instant, les pipelines sont forts.
Dernière question avant de conclure. Qu'en est-il de la discipline des dépenses en capital et des rendements pour les actionnaires?
Bank of America a retourné 8 milliards de dollars aux actionnaires ce trimestre par le biais de dividendes et de rachats d'actions. Le ratio de fonds propres ordinaires tiers a été de 11,2%, bien au-dessus du minimum requis de 10%. Donc, la banque gère bien le capital. Elle génère des rendements solides. Ce rendement de 17% sur le capital action ordinaire tangible le prouve tout en retournant le capital aux actionnaires. C'est ce que vous voulez voir.
Donc, en résumé, Bank of America a livré des résultats solides, a relevé les prévisions, a un positionnement fort dans les activités de croissance comme les marchés et la banque d'investissement, intègre l'IA avec succès, et maintient une discipline de crédit solide. Quels sont les principaux points à retenir pour les auditeurs?
Je pense qu'il y a trois points clés. Premièrement, Bank of America bénéficie d'un cycle favorable. Vous avez une économie constructive, une forte demande de capital et des conditions de marché favorables. Deuxièmement, le modèle d'exploitation diversifié de la banque fonctionne. Les revenus sont larges, provenant de sources multiples. Les frais, les R&I, les marchés et tout contribuent. Troisièmement, l'investissement dans la technologie et l'IA semble porter ses fruits. La productivité s'améliore, les coûts sont gérés, et cela crée une source d'avantages concurrentiels durables.
Excellent résumé. Avant de nous terminer, rappelez à nos auditeurs la mise en garde importante.
Bien sûr. Tout ce qui a été discuté est une analyse générée par IA à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Veuillez faire votre propre diligence raisonnable. Ne prenez pas ces informations comme un conseil d'investissement. Faites toujours vos propres recherches et consultez un professionnel qualifié.
Merci Jordan. Merci à vous tous d'avoir écouté Beta Finch. Nous vous reverrons bientôt pour une analyse d'une autre entreprise fascinante. À bientôt. Dies script summary. Duration, 6-7 minutes at natural conversational pace. Word count, 1,150 word. Language, 100% French. Both mandatory disclaimer naturally integrated, intro plus outro. Coverage, financial highlights, segment performance, AI strategy, guidance update, and investment implication. The script cover all key earning metric, impressive segment growth, especially global market plus 33% and GWIM plus 42%, Bank of America SI Rolou with 3 cents plus approved use case, the rest guidance on NI and operating leverage, and maintain en engaging conversational tone through goût.